Interview.
2 jours.
Bonjour, donc nous sommes à Terre d'Aigo. Terre d'Aigo, c'est au-dessus de la Drôme, à la sortie de Die, en allant sur Cray. Et nous allons vous parler du projet Terre d'Aigo, donc. Et les initiateurs de ce projet, Florence et Nelson. Je laisse la parole à Florence, qui d'abord va se présenter assez rapidement, pour ensuite présenter le projet.
Bonjour, je m'appelle Florence et donc... Avec mon mari Nelson, nous sommes arrivés dans la Drôme il y a maintenant 2 ans. Presque, oui, presque 2 ans. Si, 2 ans plus. Et l'idée donc de ce projet était de trouver un lieu ouvert où on avait de la nature, un lieu qu'on pouvait faire revivre, avec une approche, un désir de le rendre collectif. Voilà. Donc, pourquoi la Drôme ? Bien, parce que j'y ai vécu en étant adolescente. Mon mari, d'origine portugaise, ses origines familiales sont aussi en moyenne montagne au Portugal, et que les conditions... géographique et climatique se rapprochait essentiellement, assez, même beaucoup, des montagnes du Portugal. Donc ça a fait sens quand on a commencé à chercher un lieu. Ça a fait des échos chez nous, moi de par mes souvenirs d'enfance et Nelson aussi de par ses origines familiales portugaises. Au pied du Vercors, ça a été un lieu absolument magique. On a vraiment été enthousiasmés par la nature environnante. Et ensuite, le lieu en lui-même, qui attendait à redonner vie, à se remettre en... à renaître un petit peu, puisqu'il était un petit peu abandonné comme une résidence secondaire... qui vivait que 2 mois par an et qui était un petit peu... qui n'avait pas vraiment d'attache sur le territoire. Donc voilà, donc une fois arrivé sur ce lieu, on a décidé qu'il fallait qu'il soit ouvert, comme c'était notre objectif. On savait qu'il y avait sur les 4 hectares des terres agricoles, puisque initialement c'était des terres de pâturage et qui n'étaient pas aussi boisées que maintenant. Et donc il y avait un gros projet de remise en culture. Et à l'issue, donc quand nous avons acheté, nous avons commencé à essayer de créer du réseau, de rencontrer des personnes. Qui soit dans la même logique que nous, ou dans la même envie et dans la même intention. Et on a rencontré Benjamin, qui s'est installé donc depuis 2018 donc pour remettre les terres en culture. Voilà, ça a été le premier projet, qui est un projet essentiellement agricole, qui est son projet. Nous l'accompagnons, mais ça reste entièrement son projet. Au fil du temps et des rencontres que nous avons eues sur le territoire, nous avons eu la chance de rencontrer aussi une autre association, une autre personne qui était en recherche d'un lieu ouvert, naturel, où la nature était importante. Pour poursuivre un projet éducatif déjà mis en place une année auparavant et qu'ils étaient en recherche de lieux. Voilà, et c'est à ce moment-là que nous avons rencontré Edwige et Virginie, qui porte le projet éducatif sur le lieu. Donc, sous couvert de cette association Médiane, le projet éducatif est arrivé au mois de septembre 2018.
Merci Florence. Donc, je vais laisser la parole de manière chronologique en fonction de l'évolution du projet à Benjamin.
Bonjour, donc je suis Benjamin et comme vient de le dire Florence, je me suis installé donc sur les terres d'Aigo en février 2018. Peut-être pour me présenter un peu plus largement, c'est peut-être bien de faire un petit retour en arrière. Donc en fait, moi j'ai fait une formation au CFPPLDI, donc le BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc c'était en 2011. Voilà. Et après, je me suis pas installé tout de suite. J'avais pas spécialement envie dans l'immédiat. Par contre, j'ai trouvé un jardin au Perrier. Donc j'ai fait, j'ai une expérience de jardinage au jardin du Perrier pour avoir quelques légumes. Et aussi ce que j'ai oublié, c'est qu'après la formation, j'ai vécu un an chez des amis maraîchers dans une yourte. Et voilà, du coup, aussi pendant cette année-là, tous les jours, j'entendais des coups de main. Et du coup, j'ai un peu vu de plus près ce que c'était que d'être maraîcher. Voilà, et puis, c'était donc fin 2017. J'ai eu une sorte d'élan soudain parce que j'avais envie de passer plus de temps dehors parmi les éléments, comme j'aime bien dire, vivre entre ciel et terre. Ça commençait à me manquer parce que même si j'avais un jardin, je passais pas tout mon temps. Et puis j'avais aussi envie de donner une envergure professionnelle plus importante quoi, au jardin, à cette activité-là. Voilà, et puis donc j'ai posé une annonce et puis très vite en fait par différents curieux hasards entre guillemets, et ben voilà, on s'est rencontrés avec Florence et Nelson. Et voilà, donc j'ai commencé à m'installer donc en février 2018. Donc en fait voilà, le projet que je développe là sur place, c'est un projet de maraîchage bio évidemment sur petite surface. Donc en termes de surface, pour être précis, si on enlève toutes les allées juste en planche de culture, j'ai 500 m² de culture. Et après en surface utilisée, ça doit faire entre 3000 et 4000 m². Mon projet, disons qu'il y a un projet à court terme, court terme, moyen terme. C'est d'avoir un revenu complémentaire. Ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est qu'en parallèle, je fais du massage de relaxation où j'interviens dans plusieurs structures, dont Pause Sauna, le sauna qui vient de se créer à Die. Et voilà, donc l'idée du maraîchage, c'est d'avoir un revenu complémentaire du revenu que j'ai en massage. Et après, un objectif peut-être à plus long terme, c'est d'améliorer la terre en fait, d'avoir un sol qui soit plus facile à utiliser, à cultiver, qui soit plus fertile que quand je l'ai trouvé. Parce qu'il faut préciser que là c'est un sol qui est hyper hyper argileux. C'est pas toujours facile. Donc ce que je fais, c'est que j'apporte du sable en grosse quantité, de la matière organique. Et voilà, j'espère que dans les prochaines années, ça va. Voilà. Il y aura un sol qui sera beau, vivant, et que les générations futures puissent faire pousser des légumes.
Et concrètement, au niveau de la commercialisation, tu souhaites t'adresser à qui au niveau de distribution et...
Alors, l'année dernière, j'ai très peu produit parce que c'est une année d'installation. Donc je me suis vraiment concentré là-dessus. Donc, j'ai surtout vendu à des restaurants. Principalement les petits fourneaux donc qui se trouvent dans le centre-ville de Die. Et là, le projet, c'est de mettre en place un petit marché de producteurs. Merci pour ta question, Pierre, parce que ça me permet de faire un peu de... Enfin, voilà, juste de faire passer l'info de la création de ce petit marché de producteurs. Donc je ne sais pas encore exactement quand ça va se mettre en place, mais j'imagine courant juin. Ça va dépendre un peu de comment poussent les légumes. Ça aura lieu le vendredi, probablement de 16h à 19h. Et l'idée, c'est qu'on soit plusieurs producteurs à proposer des produits, disons, de première nécessité, donc légumes, pain, des œufs, du fromage, et que les gens ils puissent venir et trouver un peu le minimum pour faire leurs courses. Voilà. Donc je suis pour l'instant, a priori, il y a peut-être une personne qui proposera son pain. Il y a une autre personne qui laissera des œufs. Mais on est à la recherche d'une autre personne qui, voilà, éventuellement, qui vend du fromage, un producteur qui fasse du fromage. Et puis il y a aussi Florence qui je ne sais pas quand exactement, quand les fruits, les arbres seront productifs, voilà, qui proposera aussi ses produits transformés, confiture, ou voilà, des framboises. Voilà un peu l'idée.
Merci Benjamin. Donc on va passer à l'aspect pédagogique avec l'installation de la petite école à classe unique gérée par l'association Médiane. Donc je laisse la parole à Edwige, qui est cofondatrice de cette association.
Bonjour, je m'appelle Edwige. Donc on a fondé cette petite école en septembre 2017 avec un petit groupe de parents qui étaient motivés, qui avaient émis un besoin en fait d'un autre type de scolarité pour leurs enfants. Donc ce groupe s'est constitué début 2017 et les choses se sont enclenchées assez rapidement en fait. Donc on a trouvé un lieu temporaire, on le savait, enfin, ce lieu était temporaire, enfin, était annoncé comme temporaire depuis le début grâce à l'accueil de Claire Montesinos et Étienne Fournier qui sont agriculteurs sur Barnave. Donc on a eu un petit, ils nous ont accueillis dans leur salle de vente en fait qu'ils utilisent pendant l'été. Et ça nous a permis de lancer le projet sur un lieu magnifique avec des gens très gentils. Donc on était dans un accueil très très confortable dans le sens où on pouvait expérimenter cette première année en toute quiétude. Donc on a commencé avec 10 enfants l'année dernière et cette année, donc au cours de l'année 2018, donc on a rencontré Florence et Nelson un petit peu aussi par hasard, par le biais d'un ami commun. Et cette rencontre nous a permis de nous installer sur le lieu de Terre-d'Aigo avec une... Enfin, je tiens à remercier vraiment l'accueil de Florence et Nelson parce que ça a été vraiment fédéral. Enfin, ça nous a permis de... Ça a été sécurisant, en fait, d'arriver ici et de pouvoir s'installer en toute quiétude avec un lieu qui est très, très opérationnel pour nous. Une belle salle de classe et un lieu naturel... intéressant, riche pour les enfants. Donc ça nous, ce qui était important aussi pour nous, puisque le cœur du projet en fait c'est l'éducation à la paix, à l'environnement et à la coopération. Donc l'aspect nature était fait partie des fondamentaux. On peut pas s'installer en centre-ville de Die, ça c'était juste exclu pour nous parce que sinon ça n'aurait pas de sens par rapport au projet éducatif. Voilà, on est bien installé.
Donc sur ce lieu qui est quand même assez, assez beau, faut le dire, qui est juste situé au-dessus de Die, il y a une partie au niveau nature qui est sauvage dans le projet et une partie domestique avec la création d'un jardin.
Oui, alors ça, ça fait partie aussi des fondamentaux de notre projet. Moi, je suis éducatrice à l'environnement et à la base et j'ai longuement accompagné des projets de jardin dans les écoles et dans les centres sociaux, etc. Et pour moi, c'est important aussi d'avoir un espace où les enfants ont prise sur le vivant, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à travers une approche globale de l'écosystème jardin, de leur faire sentir qu'ils peuvent avoir une intervention sur un milieu. et pouvoir produire des choses, en fait, pouvoir produire des éléments qu'ils vont pouvoir ensuite manger en plus. Donc il y a un contact aussi avec leur sens, avec leur besoin vitaux qui est de manger déjà. Et c'est aussi un rapport au cycle du vivant dans leur globalité. C'est-à-dire qu'on peut faire un lien entre ce qu'ils observent dans le jardin et ce qu'ils observent dans des milieux naturels qui se gèrent tout seuls, quoi. Pour nous, la présence d'une activité professionnelle telle que celle de Benjamin et celle de Florence quand elle développera son verger, c'est fondamental, en fait, parce que ça permet aussi de sentir, enfin de permettre aux enfants d'observer que ce qu'ils expérimentent eux à leur petite à leur échelle, et ben ça peut avoir ça peut se reproduire à une échelle bien plus grande et ça peut faire vivre quelqu'un professionnellement.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'organisation de l'école avec une équipe constituée qui, jusqu'à preuve du contraire, fonctionne avec une belle complicité? Donc tu peux nous en toucher deux mots. On passera la parole ensuite à Virginie qui fait partie de l'équipe.
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le projet s'articule autour de l'éducation à la paix, à l'environnement et à la coopération. Donc ça, c'est les grandes finalités. Ensuite, les modalités pédagogiques, elles s'articulent autour de plusieurs types de pédagogie. On est assez hétéroclite dans nos approches pour être le plus adapté possible à une diversité de profils d'enfants. Donc moi, j'ai suivi une formation Montessori et également une formation avec Isabelle Peloux des Amanins. Et en tant qu'éducatrice à l'environnement, je suis empreinte aussi de beaucoup de l'approche de Freinet, enfin des pédagogies actives et en particulier de Freinet. Voilà, donc tout se mélange en fait et apporte une richesse, un terreau fertile pour que les enfants puissent s'emparer des apprentissages en fonction de leur filtre, voilà, selon s'ils sont plutôt visuel, auditif, kinesthésique, puis s'ils ont des difficultés d'apprentissage, s'ils ont besoin de manipulation, ou plutôt s'ils sont directement dans l'abstraction, parce qu'il y a des enfants qui ont aussi des hauts potentiels qui ne supportent, enfin, pour lesquels la manipulation n'est pas forcément la plus adaptée. Donc on s'adapte vraiment, enfin, on présente, on propose une diversité d'approches pour cela. Au niveau des espaces de l'organisation dans la classe, l'idée c'est de proposer des ateliers permanents thématiques, c'est-à-dire il y a un petit coin plutôt axé sur le langage, le français, un peu plus sur le calcul, les maths, la numération, les géométries, un autre espace plus sur la découverte du monde, un autre espace plus sur les activités artistiques et manuelles, etc., etc. L'idée, c'est que les enfants soient en autonomie et en même temps puissent bénéficier d'un encadrement, enfin d'un accompagnement individualisé. Donc on est vraiment dans la pédagogie différenciée. On s'adapte à chaque enfant. En fait, on ne fait pas attention au niveau théorique CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ça, c'est un repère. Mais pour nous, c'est le niveau où en est l'enfant à l'instant T, en sachant que rien n'est figé, que ça peut évoluer des fois du jour au lendemain. Voilà, c'est un peu l'approche qu'on a de l'accompagnement des enfants dans leur scolarité. Donc cette année, nous sommes trois. Donc moi, je suis là en permanence. Virginie est là à temps partiel. Et puis Noémie, qui est volontaire en service civique cette année, est là 24 heures dans la semaine.
On va laisser se présenter Virginie, son parcours et sa place un petit peu dans l'école, ses motivations.
Bonjour, donc je suis Virginie, une des éducatrices. Je peux commencer par mon parcours. À la base, je suis enseignante en sciences de la vie et de la terre dans le secondaire, donc au collège et lycée. J'ai démarré donc en région parisienne. Et j'ai fait un peu tous les types d'établissements, allant des zones d'éducation prioritaire jusqu'aux établissements privilégiés, voire très privilégiés. c'est pas un rêve d'enfant, mais j'ai toujours adoré à la fois les sciences et travailler avec des enfants. Donc, je trouvais que c'était en cohérence avec, avec ce que j'avais toujours aimé faire. Mais ça a été un petit peu... j'arrivais pas à y trouver... À m'y retrouver, en fait, quel que soit l'établissement dans lequel je travaillais. À la fois, j'aimais vraiment être au contact des enfants, leur apprendre des choses, mais en même temps, c'était toujours très compliqué de se retrouver dans des classes très, très nombreuses. Les enfants, j'en ai eu entre 30 et 32 par classe. Les travails en groupe étaient très chouettes quand je pouvais avoir dans les petites classes 6e, 5e, travailler avec des groupes. C'était, c'est là en fait où je retrouvais enfin une vraie place, mais c'était assez rare. En plus, c'est une matière où on les voit très peu souvent. On les a entre une heure et une heure et demie, donc pas le temps vraiment de créer des vrais, un vrai lien. J'ai quand même... j'ai eu une année un enfant que je devais suivre. Parce qu'il avait un souci, un handicap en fait. Et du coup, je m'étais proposée bénévolement le midi pour travailler avec lui, sur, revoir ses cours, voir ce dont il avait besoin. Au départ, on n'était que tous les deux à chaque fois dans la classe. Et puis, il est venu au fur et à mesure avec des copains. Et puis, à la fin de l'année, on se retrouvait à 10 dans la classe, à discuter. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Hein. Je veux être bénévole juste pour aider les enfants qui ont besoin et avec qui on peut vraiment communiquer après, prendre le temps en fait. C'est ça qui me manquait. Avec mon mari, qui est aussi qui fait le même travail que moi, on s'est retrouvés dans la même année, en 2009, par an, et avec une proposition de partir à l'étranger. Et donc, on a sauté sur l'occasion. On avait envie, en fait, d'aller voir ailleurs, voir ce qu'on pouvait aussi trouver pour s'y retrouver, nous aussi, un peu plus. Et moi, j'ai fait le choix, alors que lui travaillait en lycée français à l'étranger, de me former pour devenir coach de vie, c'est-à-dire faire de l'accompagnement pour enfants, adolescents, adultes aussi. De l'accompagnement, c'est-à-dire de l'écoute essentiellement, donc avec la communication non violente. Enfin, j'avais plusieurs petits outils à mon actif. J'ai aussi travaillé avec, j'ai aussi fait une formation avec Isabelle Filiosa sur les émotions. Et en fait, j'ai fait le choix, là, alors qu'on me proposait un poste au lycée français, de leur proposer plutôt de travailler avec les enfants, un peu le rôle de psychologue scolaire, même si j'en étais pas une, hein, c'était pas le but non plus, mais un peu travailler un peu plus en tête à tête avec les enfants, aller un peu plus loin, pas seulement sur le travail scolaire, mais voir aussi ce qui pouvait bloquer, surtout quand on est très loin à l'étranger, il y avait en plus d'autres besoins pour eux. Donc on a fait ça, on a vécu 6 ans à l'étranger, à Shanghai et à Barcelone. Et moi, j'ai fait mon petit travail de coach de vie qui me plaisait, même s'il me manquait encore ce petit... je travaillais plus avec des groupes, je travaillais avec des enfants en individuel. C'était ce qui me manquait. Donc je ne trouvais pas encore le petit plus qui pouvait... j'avais pas encore tout réuni dans ma tête, en tout cas je savais pas où j'allais aller. À Barcelone, j'ai scolarisé mon fils qui rentrait en maternelle, et là j'ai découvert les écoles d'un autre type en fait. Là c'était des écoles ils appellent ça les escolas libres, c'est l'équivalent des écoles démocratiques en France, même si je suis pas sûre que ça soit tout à fait la même chose. En tout cas, c'est le principe, c'est un éducateur pour 4 enfants maximum, et puis l'enfant est libre dans son parcours, dans la classe et dans ce qu'il veut, dans ses apprentissages, avec un bel accompagnement aussi de l'émotionnel, et puis des propositions de temps en temps, mais l'enfant restait libre de ça, et ça me parlait bien, surtout qu'on était, les parents avaient était vraiment co-éducateur. C'était la première fois que je voyais qu'on pouvait travailler en association, parents-éducateurs, être présent régulièrement dans l'école et pouvoir vraiment intervenir, proposer des choses aussi en tant que parents. On était les bienvenus et même c'était recommandé. Donc voilà, première fois où je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des choses à faire. On peut aussi, en tant qu'éducateur, mettre les parents, travailler tous ensemble, en fait. Et ça simplifie tellement les choses, et puis les enfants s'y retrouvent, surtout. Et on est resté 4 ans à Barcelone, et on a décidé quand même de rentrer en France pour nos enfants, pour qu'ils retrouvent un peu leur famille, leur langue, leur pays. Et on a cherché, notre but c'était de s'y retrouver tous en famille, d'être bien. Et la Drôme, en fait, c'était un endroit qu'on connaissait un peu, mes parents venaient s'y installer. Et voilà, on a décidé de tenter l'aventure dans cette nouvelle région. On s'est installé à 10, ça a été un petit peu un hasard, mais un bel hasard. Et puis, après 2 ans où on a tenté plusieurs écoles pour les enfants, où on en a tiré de belles choses, mais aussi il nous manquait tout n'a pas toujours fonctionné, en tout cas pour nous. J'ai rencontré donc Edwige au printemps 2017. J'ai bien senti que le projet était mûri, qu'elle arrivait avec quelque chose de solide, qu'elle savait où elle allait. Je fonctionne pas mal à l'intuition, et voilà, je sentais que ça pouvait être un très beau parcours. Donc voilà, à la fois j'avais envie de lui confier mes enfants, et à la fois j'avais envie, moi, de pouvoir lui apporter des compétences. Donc je travaille depuis l'année dernière dans l'école en tant qu'éducatrice, à la fois pour un accompagnement des enfants au quotidien, dans leur travail autonome, pour pouvoir être avec eux quand ils ont besoin, là où ils en sont en individuel. Gérer la gestion des conflits aussi au quotidien, et puis pour apporter aussi mes compétences en atelier, en groupe, en sciences, en langue, vu que avec les voyages ça m'a aussi aidée.
Merci Virginie. Je passe la parole à Noémie.
Donc moi je suis Noémie, je travaille en service civique, enfin je suis volontaire en service civique à l'école. Et en fait, à la base, pour parler un petit peu de mon parcours, je suis orthophoniste. J'ai été diplômée en 2015. Et donc, pendant 3 ans, voilà, j'ai travaillé dans des contextes un peu différents. Et principalement, quand même, auprès d'enfants souffrant de troubles des apprentissages. Donc forcément, de par cette expérience, j'ai été amenée à me poser beaucoup de questions sur l'éducation. Puisque forcément, on travaille en lien resserré en tant qu'orthophoniste avec les enseignants. Et on accompagne les enfants dans leurs problématiques scolaires. Alors déjà, je me suis toujours posé beaucoup de questions pour savoir concrètement comment un enfant évolue dans une classe avec ses difficultés, parce que moi je travaillais avec l'enfant juste tout seul, en parlant bien sûr avec les parents, avec les enseignants, mais en tout cas assez déconnecté du milieu de l'enfant qui était problématique. Et je sais que très très souvent ça m'est revenu me dire comment ces difficultés-là s'expriment exactement en classe, comment ça fonctionne, comment on peut s'adapter à tout ça. Et je sentais que j'avais des connaissances un peu théoriques sur le sujet, mais qu'en pratique, il manquait un petit peu de senti. Et ensuite, avec ces enfants-là, j'ai été confrontée aussi à toute la souffrance qu'ils peuvent vivre, puisque... à l'école, ce sont les compétences de mémoire, les compétences en lecture, en écriture qui sont mises en avant. Et donc, malheureusement, pour les enfants qui n'ont pas ces compétences-là, en fait, ils se retrouvent dans des situations de mal-être terribles, parce que voilà, ils n'ont juste pas eu de chance, parce que celui qui est nul en musique, lui, tout le monde s'en fiche. Et voilà, il y a certaines compétences comme ça qui sont clés dans la société, et si on ne les possède pas, les conséquences sont vraiment très lourdes. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte dans la construction d'un enfant ce que ça peut être de passer des heures et des heures chaque jour à faire quelque chose pour lequel on n'est pas compétent, et de recommencer chaque jour, être mis en échec tout le temps. Et donc voilà, forcément, c'était une question qui me touchait beaucoup, de voir ces enfants-là, comment, même après rencontrer des adultes, de voir comment ça a pu façonner leur vie, leur personnalité, leur confiance en eux. Enfin voilà, du coup, je me suis posé beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est l'intelligence, est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que ces enfants-là et chaque enfant, d'une façon beaucoup plus globale, trouve sa place dans la société, puisque en fait, on le voit avec les enfants dyslexiques, dyspraxiques, finalement à l'école, en fait, c'est la catastrophe pour eux. Et puis finalement, une fois qu'ils arrivent dans la vraie vie, il y en a beaucoup qui arrivent à trouver leur place. Et donc voilà, la question, c'est est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte qu'ils trouvent leur place dès le départ, puisque ils en ont eu. Et voilà, du coup, c'est aussi comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux autres formes de pédagogie. Et puis voilà, aussi à m'interroger sur comment peut fonctionner une classe avec un enseignant et 30 élèves, et puis en termes d'accompagnement personnalisé. Et en fait, j'ai pas forcément cherché à venir travailler ici, ça m'est un petit peu tombé dessus. C'était au mois de septembre, je cherchais une annonce de colocation sur Ensemble Ici, et puis j'ai vu cette annonce pour un service civique dans cette école. Et en fait, j'étais en transition, je rentrais de voyage, il fallait que je trouve du travail. Et je me suis dit que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Donc c'était vraiment le hasard le plus total. Et du coup, j'ai rencontré Edwige et Virginie. Et voilà, tout de suite, le projet m'a plu. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de chouette. Et donc, on a commencé l'aventure ensemble. Et donc au niveau de mon rôle dans l'école, donc je viens en soutien pédagogique, notamment sur les ateliers autonomes, où donc quand il y a un enfant qui a un besoin d'aide, j'aide Edwige et Virginie, je les complète à ce niveau-là. Et ensuite j'apporte aussi mes compétences d'orthophoniste, parce qu'on a quand même un nombre assez important d'enfants avec des besoins particuliers. Et du coup, j'ai pu aussi apporter ça à mes collègues, déjà de aider aussi à un accompagnement plus personnalisé, mettre en place aussi certains exercices qui pourraient être bénéfiques pour certains enfants. Enfin voilà, avec toutes mes connaissances sur les apprentissages qui me sont propres de par mon métier. Et ensuite aussi le travail avec les parents pour les enfants qui ont besoin de suivi à l'extérieur. Et donc ça, on travaille énormément tous ensemble pour guider donc quel professionnel aller voir, quel suivi de façon beaucoup plus globale finalement qu'à l'école. Et voilà, il y a aussi un enfant pour lequel j'assure un suivi orthophoniste directement à l'école. Donc voilà, entre l'enseignement et puis l'orthophonie. Et c'est aussi une super expérience, parce qu'on peut mêler en fait tout, quoi, avec les parents avec qui il y a des liens très très resserrés, les éducatrices, l'enfant, le milieu scolaire, l'orthophonie. Enfin voilà, donc un petit peu ce que ma place dans l'école.
Merci Noémie. Edwige, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la dynamique dans l'école avec justement les parents ? Parce qu'apparemment, il y a un lien qui s'est noué entre enseignantes et parents qui est assez chouette, qui est lié aussi à l'aspect associatif du fonctionnement de la structure.
Oui, donc l'école est une école associative portée par l'association Médiane. Les membres du conseil d'administration de l'association sont majoritairement des parents. La première année, c'était ceux qui ont œuvré à la fondation de l'école. Certains enfants commencent à partir au collège, donc il y a un renouvellement aussi des parents dans le conseil d'administration. Mais le but, c'est vraiment que cette école soit animée et, par le groupe de parents et l'équipe enseignante et aussi, du coup, les propriétaires du lieu. Enfin, voilà, donc, Florence fait aussi partie du CA et c'est très important aussi pour nous parce que ça permet à la cohérence dans du tout, quoi. Voilà. Et il y a aussi des va-et-vient réguliers avec Benjamin, le maraîcher, pour que ça circule. Ça circule de façon saine et fluide. Ensuite, donc ça, c'est plus pour la question administrative et la dynamique globale de l'association et de l'école. Comme disait Noémie, c'est très important pour nous de construire un lien de confiance avec les parents et de travailler vraiment en collaboration resserrée, de manière à ce que l'enfant se sente vraiment accompagné de façon cohérente, qu'il n'y ait pas de dissonance en fait entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur à l'équipe et à moi-même. Donc on y passe beaucoup de temps. On y passe beaucoup de temps. C'est vrai que ça prend aussi sur le temps hors face-à-face pédagogique. Mais on a constaté, enfin voilà, depuis le début, que c'était vraiment ce temps-là, c'était pas du luxe et que c'était vraiment, ça, c'était gage de réussite pour tout le monde et que parfois ça débloque des situations qui peuvent être un peu problématiques très très vite en fait. Donc on n'attend pas que les problèmes grossissent. On essaye de faire ça de façon assez rapide, enfin, d'être réactive en tout cas. Et ce qui nous tient aussi à cœur, et ce qui n'est pas facile des fois, c'est aussi quand il s'agit de familles recomposées ou de parents séparés, c'est important aussi de tenir compte des deux parents, de leurs avis, de trouver un fil conducteur pour l'enfant. En fait, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime, hein, pour que lui se sente en sécurité. Un enfant qui se sente en sécurité sera disponible pour travailler et pour apprendre. S'il ressent une insécurité à un endroit donné, il va y avoir un hic quelque part et il ne sera pas disponible pour travailler au moins de façon constante. Et voilà. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps pour ça. Et en fait, ça génère une confiance, un lien très fort entre nous et les parents. Et ça génère du coup une dynamique très soudée, on est très heureux vraiment au quotidien d'être en lien ensemble, de faire des choses ensemble, parce que il y a vraiment quelque chose qui nous relie, qui est l'intérêt de l'enfant. Voilà, on n'est pas dans l'affectif, hein, on est vraiment dans l'intérêt de l'enfant, et du coup ça génère une dynamique qui est positive, qui est une stimulation autour de l'enfant qui est chouette. Et du coup, comme on travaille sur la coopération, on ne peut pas travailler sur la coopération avec les enfants sans travailler en coopération avec les adultes. Ça serait complètement incohérent et les enfants, ils le sentent tout de suite quand il y a une dissonance. Donc ça, c'est, de toute façon, c'est pour nous ne pas respecter l'intégrité de l'enfant, en fait, et notre intégrité à nous. Et ce qui est très, très chouette cette année, c'est que les enfants puissent voir que les adultes coopèrent sur le lieu. Donc avec Florence et Nelson, avec Benjamin, avec les gens qui gravitent autour de ce lieu, parce qu'il y a plein de gens qui viennent en fait régulièrement, filer des coups de main, c'est une vraie petite ruche, et c'est vraiment l'atout de ce lieu pour les enfants, c'est cette cohérence et ce bien-être qu'ils peuvent ressentir en fait entre nous. Les choses sont simples, il n'y a pas de grands discours, c'est... voilà, il y a des gens qui arrivent à midi, hop, ben on les invite à manger. Enfin, c'est complètement spontané et voilà, dans la convivialité, quoi.
Un petit côté auberge portugaise.
C'est ça.
Merci Edwige. Donc, on a vu l'aspect, la place de l'école, la place de Benjamin d'abord, la place de l'école. Tout ça s'inscrit dans un projet qui est mené par Florence et Nelson, qui va se développer, donc... Je vais laisser la parole à Florence pour nous parler de ce développement de projet.
Oui, effectivement, donc, comme l'a dit Edwige, Virginie, Noémie et Benjamin, Ce ne sont pas des projets qui vont s'additionner, c'est des projets qui sont en connexion et qui mettent, malgré eux ou grâce à eux, l'enfant au cœur de tous les projets. Puisque effectivement, les enfants sur place ont la possibilité de réfléchir et d'observer un modèle économique comme le projet agricole de Benjamin. L'école, qui est leur lieu de vie, et, mais aussi un gîte qui est au premier étage où ils voient des gens passer, traverser, venir, partir. Mais il y a effectivement une présence permanente qui pourrait être à la limite à l'extérieur du projet global, mais qui spontanément s'intègre dans le projet puisque les personnes résidentes du gîte vont aider le projet agricole, sont très concernées par le projet pédagogique. En fait, les gens qui arrivent sur le lieu, soit ils repartent parce que ça ne fait pas sens chez eux, mais à partir du moment où ça fait sens chez eux, ils trouvent leur place et on n'a même pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Il y a des choses qui se créent, des énergies qui se relient entre elles et qui circulent et qui font que le projet n'est plus un, comme je vous dis, une addition de projet, mais un projet, un seul projet, hyper connecté, vraiment connecté. Et donc l'idée après, c'est que dans un avenir proche, je l'espère, puisque je me forme pour, depuis novembre 2018, je suis inscrite au CFPPA de Die, Centre de formation agricole, pour un projet de création de vergers. Cette formation se termine au mois de juin et nous avons donc un projet avec Nelson de... Mais Nelson met tout le monde maintenant, je dis, puisque ça va obligatoirement impacter, impliquer toutes les personnes qui sont sur le lieu. Et tant mieux. Alors, ça sera un verger avec une approche pédagogique. Alors, vous allez me dire, bien sûr, c'est évident, les enfants... Mais non, mais ça a toujours été, parce qu'en fait, je fais aussi d'éducation à l'environnement, pas plus de la sensibilisation, je dirais, que de l'éducation. Suite à une reconversion professionnelle que j'ai faite il y a une dizaine d'années où je me suis trouvée en fin de master en médiation environnementale faire un stage dans une association qui portait des programmes agri-urbains sur l'agriculture périurbaine puisque j'étais en grande métropole donc sur Paris et région parisienne et moi j'étais chargée donc au sein de cette association de mettre en place toutes les outils pédagogiques et de sensibilisation donc pour tous les acteurs qui sont impliqués dans un programme agri-urbain que peuvent être les agriculteurs, les élus, la société civile et donc les associations concernées par ce genre de projet. J'ai toujours eu une approche un peu de sensibilisation notamment sur l'agriculture, souvent été sur la partie plus aval, c'est-à-dire au niveau de la consommation, et jamais un peu moins sur la partie amont que peut être la production. Et ça m'a toujours attiré plus ou moins, surtout en contact avec les agriculteurs. Si bien que quand nous sommes arrivés dans la Drôme, que nous avons trouvé ce lieu, pour moi ça m'a fait je me suis dit, mais je peux allier production et sensibilisation, éducation. Et donc, j'ai accompagné Benjamin dans son projet d'installation. Et je me suis rendu compte que le maraîchage, ce n'était pas fait pour moi, physiquement parlant. Être à genoux toute la journée, je ne peux plus. Ça, ce n'est pas possible. En revanche, avoir les bras en l'air dans un verger, j'ai trouvé que c'était plus cohérent pour moi.
Pourtant, on a une culture chrétienne, être à genoux, ça peut faire.
Oui, ben, j'ai peut-être écarté un petit peu cet aspect depuis longtemps déjà. Et donc, du coup c'est le verger, les fruits, le fait que ce soit une culture pérenne aussi, dans la mesure où on voit, on plante un arbre, mais on sait que ce n'est pas pour nous. On sait que c'est forcément pour les générations futures. puisqu'il est là pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et j'ai trouvé cette projection dans l'avenir hyper positive, très constructive. Et c'est vrai qu'on en a besoin en ce moment, d'avoir une projection sur l'avenir peut-être positive. Et planter un arbre, eh ben, ça a du sens. Ça, pour moi, ça reflète un petit peu toutes ces valeurs. Donc voilà, donc il y a ce projet de création de verger avec cette approche pédagogique qui va en fait nourrir tous les projets éducatifs sur le lieu, mais qui va permettre aussi d'essaimer, de diffuser, de faire venir des personnes qui ont une sensibilité à la nature, à la nourriture aussi, à l'alimentation et au paysage, parce que l'arbre, c'est aussi le paysage.
Merci Florence. Donc, sur l'actualité, il va y avoir une journée porte ouverte organisée par l'association Médiane sur l'école buissonnière. On ne l'a pas présentée, elle s'appelle l'école buissonnière. Donc Edwige va juste nous en dire deux mots pour conclure ce petit entretien.
Eh bien, donc nous vous accueillons à partir de 14h, le samedi 18 mai, le lieu de Terre d'Aigo. Il y aura plusieurs types d'animations, de la grimpe en arbre, de la lecture avec Isabelle Simon. Il y aura de la fabrication de marionnettes comestibles avec Sophie. Plein d'autres activités, des jeux. Et l'idée, c'est que ce soit un moment convivial et que ce soit aussi un temps durant lequel vous pourrez nous rencontrer, les éducatrices, pour parler de l'école, de comment on s'occupe des enfants, comment on les accompagne. Et voilà.
Il y a aussi une petite opération que l'école buissonnière organise, qui n'est pas rien. C'est quand même une histoire de survie de l'école, puisqu'on est dans un milieu associatif et on connaît les difficultés actuelles de la société civile et du monde associatif en ce qui concerne sa pérennité. Donc il y a un appel à dons qui s'organise, je crois, c'est sur le site de l'association Médiane.
C'est sur le site de Hello Asso, qui est une plateforme sur laquelle on peut lancer des appels à dons. Donc Hello Asso, vous pouvez nous contacter pour avoir le lien direct, parce que c'est toujours des adresses très longues.
Si vous tapez École Buissonnière sur internet, Hello Asso, École Buissonnière, vous trouvez très facilement.
Et le but de cet appel à dons, c'est de pérenniser effectivement l'école, parce qu'on a un besoin de trésorerie important pour permettre aux personnes qui travaillent sur le lieu d'être rémunérées correctement en fonction de... Voilà, on fait beaucoup de bénévolat actuellement, donc on aimerait bien changer un peu de modèle. Il y a aussi des formations qu'on organise l'association au niveau de deux thématiques principales. C'est la création de jardins pédagogiques. Donc il y a une formation en août, fin août, pour des personnes, des porteurs de projets jardins dans leur structure, ou des personnes en reconversion qui voudraient devenir animateurs nature autour de cette thématique du jardin. Et une autre formation qui est plus axée sur des outils de coopération et aussi de lien, enfin de reconnexion du lien avec de l'enfant avec le vivant, et qui s'adresse en particulier aux travailleurs sociaux. Parce que dans mon parcours, j'ai aussi fait de l'accueil social et je me suis rendu compte en discutant avec les éducateurs et les enfants que ces outils-là n'étaient pas du tout connus dans le milieu de l'éducation spécialisée. Donc on propose cette formation un petit peu qui nous permette de transmettre notre expérience d'éducation nature, de travail au quotidien sur la régulation de la vie de groupe, l'organisation autonome de la vie de groupe, l'autogestion, etc. Ce qu'on fait ici à l'école. Pour des éducateurs ou même des agriculteurs qui font de l'accueil social au sein de leur ferme, parce que c'est aussi un profil qui peut être intéressé par cette formation. Le modèle économique de l'école, c'est pas que les écolages, la participation financière des parents, qu'on veut la plus faible possible pour que l'école soit accessible à tous. L'idée, c'est vraiment L'esprit, c'est vraiment un esprit d'éducation populaire, même si c'est difficile voilà, de rendre cette école gratuite pour le moment. Mais on aimerait tendre à ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on lance des appels à dons et aussi qu'on organise des formations complémentaires pour alimenter le budget de l'école.
Merci à vous toutes et à vous tous. Pour arriver à Terre d'Aigo, quand vous sortez de 10, vous passez le premier rond-point dans la direction de Cray, et entre les deux ronds-points, il y a une petite route qui indique le Perrier et...
Le camping de la
Pinède. Vous pouvez facilement vous garer en passant un très joli petit pont de pierre qui enjambe la Drôme, et ensuite il y aura des indications pour vous orienter jusqu'ici.
Impasse du Pont Neuf.
Impasse du Pont Neuf, donc.
Interview.
Ok, le bail arrive.
L'interview du jour.
L'interview du jour.